de la rédaction aujourd'hui est Patrick Victor, le directeur de l'ONG Portes Ouvertes, à propos de la sortie de l'index mondial de persécution des chrétiens 2021, qui est publié par l'ONG Portes Ouvertes. Les minorités chrétiennes dans certains pays du monde sont persécutées et la crise du Covid n'arrange pas les choses. Patrick Victor, bonjour.
Bonjour.
Alors en quoi
Merci pour cet entretien.
Mais je vous en prie, monsieur. En quoi la crise du Covid a amplifié les persécutions envers les chrétiens dans plus de 10 pays répertoriés?
Oui, donc la crise du Covid a vraiment accentué la persécution des chrétiens l'année dernière. Ce sont 340 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés et discriminés pour leur foi. Et un grand nombre d'entre eux ont été, par exemple, discriminés à l'aide alimentaire et sanitaire. 80% des personnes que nous avons aidées en Inde, nous avons aidé environ 100 000 personnes, 80% d'entre elles nous ont signalé qu'elles étaient discriminées, qu'elles étaient amoindries par les autorités locales ou des autorités provinciales en leur disant « vous êtes chrétien ». Demandez à votre Dieu pour de la nourriture. Vous êtes chrétien, vous ne recevrez rien. Demandez aux associations qui vous soutiennent. Et donc, nous voyons ça en Inde, nous avons vu ça dans d'autres pays également. Et un deuxième facteur qui a accéléré la persécution, c'est que dans certains pays comme la Somalie et le Bangladesh, des groupes extrémistes ont accusé les chrétiens d'être des boucs émissaires et d'être même à l'origine de la crise sanitaire. Alors vous imaginez ce que cela donne comme atmosphère au niveau du village, au niveau d'une ville, lorsque les chrétiens sont accusés d'avoir importé le Covid de l'Occident.
Ça se manifeste comment ces violences ce sont des mots, ce sont des gestes, ce sont des trucs plus généraux, on vous le disiez, des mises de côté de la société?
Eh bien, quand on parle de persécution, il y a différentes formes de persécution. Il y a d'abord la persécution violente, que nous appelons la persécution marteau. Ensuite, il y a la persécution qui s'opère au niveau des sphères de la vie, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau même du gouvernement. Et donc, comment est-ce que les chrétiens ressentent cette persécution? Eh bien, je vais donner un exemple concret.
Oui.
Une jeune femme algérienne avec des enfants décide de quitter sa maison parce qu'elle étouffe, elle n'en peut plus. Pourquoi elle n'en peut plus? Parce qu'elle a perdu son travail, parce qu'on a appris qu'elle était chrétienne. Son mari n'accepte pas sa foi. Ses meilleurs amis se détournent d'elle parce qu'elle est devenue chrétienne. Tout à coup, ça devient une personne qui a une maladie grave, qui pourrait être contagieuse. Et de ce fait-là, elle est écartée de la vie en communauté. Et donc, ça, c'est ce que nous appelons la persécution étouffée, la persécution qui étouffe. Évidemment, on a aussi des persécutions très violentes. C'est le cas, par exemple, au Nigeria, où l'année dernière, 3530 chrétiens ont perdu la vie suite à des attaques violentes de Boko Haram et des bergers peuls. Évidemment, cette violence et cette persécution, c'est la face visible des choses. Il ne faut pas oublier que l'étouffement des populations chrétiennes ont un impact plus durable et encore plus nocif que la violence brute.
Donc au-delà des groupes terroristes islamistes, il y a, vous le disiez, l'étouffement dans beaucoup de pays. On ne leur permet pas de vivre. Quelle solution s'offre à ces personnes? Un exil, forcément?
Pas nécessairement. Je crois que une des solutions consiste tout d'abord à comprendre ce qui arrive à ces personnes, parce que souvent ces personnes ne comprennent pas l'ampleur de la persécution, ne comprennent pas les moteurs, ne comprennent pas toujours ce qui anime le persécuteur. Et donc nos équipes, nos partenaires sur place vont d'abord éduquer, vont apprendre à reconnaître la persécution afin que ces personnes puissent aussi, d'un point de vue de leur foi, interpréter ce qui leur arrive d'un point de vue spirituel. Deuxièmement, ces personnes, souvent, peuvent aller dans des lieux de refuge. Nous avons des lieux de refuge où les personnes, pendant quelques mois, peuvent se reposer, peuvent parler, peuvent prier et se retrouver dans une communauté d'autres croyants qui ont vécu la même chose qu'eux. Et dans cette communion, eh bien, les personnes arrivent à reconstruire un tissu social qui leur permettra de rebondir.
Les chrétiens sont toujours en minorité dans les endroits où ils sont persécutés ?
Alors, ce sont parfois des grandes minorités. Si on prend un pays comme la Chine, où il y a 100 millions de chrétiens, donc presque une fois et demie la population ici en France, eh bien, est-ce que c'est encore une minorité ? Est-ce que 63 oui. millions de chrétiens en Inde, est-ce que c'est une minorité ? Par rapport à l'ensemble de la population, oui, bien entendu. Mais ça représente quand même un groupe assez important. Et évidemment, si nous allons en Somalie, où il y a quelques milliers de chrétiens, là, c'est une toute petite minorité. C'est la même chose pour le Yémen, par exemple, où il y a une guerre effroyable qui est en train de se dérouler sous nos yeux, sans que nous puissions y faire grand-chose, malheureusement. Eh bien, là aussi, les chrétiens, quand ils sont découverts, ils peuvent être automatiquement tués parce que pour un délit d'apostasie. Et en Somalie, c'est encore plus grave, parce qu'en Somalie, dès que vous êtes chrétien, votre nom se retrouve sur une liste noire, et un beau jour, vous allez travailler et quelqu'un vous assassine ou vous tue à coups de pistolet dans la rue. Et donc, oui, en fonction des pays, les minorités sont plus ou moins grandes.
Vous le disiez, des chiffres, 4761 chrétiens tués en 2020, soit 13 personnes par jour. C'est énorme.
Oui, c'est une augmentation de 60%, si on parle de chiffres, c'est 60% d'augmentation par rapport à l'année dernière, dont la plus grande majorité, donc 90% de ces chrétiens qui ont été tués, l'ont été en Afrique subsaharienne, principalement au Nigeria, mais également en République démocratique du Congo, au Mozambique, au Burkina Faso et dans toute la ceinture qui se trouve en dessous du Sahara. On voit la stratégie des islamistes extrémistes qui essayent de descendre vers le sud du continent africain qui est plutôt chrétien, le nord qui est plutôt musulman. Et ils essayent d'avoir accès aux ressources, d'avoir accès aux terres, d'avoir accès à ce qui leur permettra de s'établir de manière durable. Mais les chrétiens sont sur leur chemin.
Et ce sont des exécutions sommaires ?
Alors, le mode opératoire est souvent le même. Ces terroristes arrivent dans un village avec des motos, des 4x4, et ils sèment la panique. Ils tirent en l'air, ils crient « Allô Akbar !» et les gens commencent à avoir peur. Ils s'enfouillent un peu partout. Et là, ça commence à tirer principalement sur les hommes et sur les enfants, sur les garçons. Ensuite, ils vont essayer de capturer les femmes, les jeunes filles. Les jeunes filles sont souvent violées ou alors prises en otage, parfois mariées de force à des terroristes. Et donc, le message qui est passé, c'est « Nous voulons vos terres, donnez-nous votre terre ou donnez-nous votre sang ». Et ce sont ces attaques violentes qui ont, par exemple, conduit le pasteur Tindano, dans le nord-est du Burkina Faso, à être assassiné au printemps 2020, alors qu'il était avec son fils et ses deux neveux et deux filles. Les deux filles ont été relâchées, mais malheureusement, lui, son fils et ses deux neveux ont été assassinés simplement parce que un, c'était un pasteur, donc c'était un responsable religieux, et deuxièmement, parce que c'était des hommes.
On peut faire un parallèle, alors pas sur le mode opératoire, mais là on vient de fêter le 76e anniversaire de la libération des camps, on peut faire un parallèle avec la Shoah ?
Écoutez, évidemment la Shoah a été a été terrible et horrible. 6 millions de personnes ont perdu la vie et c'est quelque chose. Et là, on vient de fêter cet anniversaire hier, en fait. Et je pense que on peut faire un parallèle dans le sens où il y a de la haine. À l'époque, il y avait de la haine contre les Juifs, contre le peuple d'Israël. Et ici, il y a une haine contre les chrétiens. Et cette haine se manifeste soit de façon très violente, soit de manière plus subtile. Mais le résultat est le même. C'est le déni de la liberté de penser, de la liberté d'expression, de la liberté du culte. Et c'est quelque chose, malheureusement, que nous voyons tout au travers de l'histoire. Et je pense que pour nous, hommes et femmes de bonnes intentions, je voudrais vraiment qu'on soit mobilisés pour nous informer, pour aider là où nous pouvons être, pour que l'humanité puisse vivre normalement. On ne demande pas grand-chose, on veut simplement que les gens puissent vivre dans la dignité. Et aujourd'hui, on en est encore loin. Et les chrétiens, la persécution des chrétiens nous rappelle qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et notre rôle en tant qu'association, en tant que mission, c'est vraiment d'alerter, d'informer, d'essayer de mobiliser, que ce soit au niveau des personnes, au niveau des familles, que ce soit au niveau des hommes et des femmes politiques ou dans les grandes institutions internationales qui défendent les droits de l'homme, eh bien, c'est notre rôle d'informer, mais également d'aider sur le terrain, au travers d'un réseau de partenaires, les populations qui sont souvent des populations très vulnérables. Vulnérables économiquement, vulnérables aussi de par leur situation géographique parfois, mais aussi parce que ce sont des femmes et des enfants qui ont parfois perdu un mari ou un père et qui ne peuvent plus subsister normalement. Et donc, c'est là où nous intervenons, c'est là où nous apportons une aide socio-économique. Oui. Nous faisons également de l'enseignement pour permettre à ces personnes de rebondir.
Patrick Victor, vous êtes nouvellement, vous avez pris ce poste de directeur de l'ONG Portes Ouvertes. C'est quoi vos motivations à vous, personnelles?
Ma motivation personnelle, je dirais que c'est tout d'abord un appel. Qui vient du haut. Et c'est aussi un appel à la compassion. Lorsqu'on apprend à mieux connaître l'Église qui est persécutée, ça donne quelque chose se déclenche en nous. Et nous le voyons parmi beaucoup de nos abonnés. Il y a d'un côté la compassion et le désir d'aider, et nous pouvons aider. Donc à chaque fois que nous recevons des dons, les dons sont utilisés exclusivement pour aider l'Église persécutée. Et donc, nous intervenons au niveau local, au niveau du village pratiquement. Et nous savons que cela aide les personnes. Donc, il y a l'aspect de la compassion, mais il y a également un aspect, je dirais, qui est de l'ordre plus spirituel.
Oui.
Et de demander ce que Dieu nous demande de faire, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Et c'est d'utiliser les ressources que nous avons reçues, non seulement pour nous, mais aussi pour d'autres.
Et c'est tout à votre honneur. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions, Patrick Victor. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'ONG Portes Ouvertes. L'index mondial de persécution des chrétiens 2021 est sorti. Vous pouvez le trouver et le consulter en ligne. Merci infiniment.
Merci à vous. Bonne journée.